Chapitre 26. Et si la solution était de retirer nos biopuces, de revenir à ces temps anciens où les hommes vivaient dans le secret de leurs pensées et de leurs actes? Et si le contrôle permanent n'était qu'un leurre, une fausse piste, un chemin vers l'enfermement? Avons-nous à ce point renoncé à nos rêves que nous acceptions d'être marqués et tracés comme des animaux? 20 ans de vie supplémentaire valent-ils qu'on sacrifie notre intimité à la sécurité? À quoi sert de vivre une jeunesse éternelle dans une prison, aussi luxueuse soit-elle? Certains ne manqueront pas de me taxer de rétrograde, ou diront que je crache maintenant sur une organisation qui m'a épargné les affres de la mutation génétique et de la monstruosité. À cela, je répondrai que je préfère, et de loin, la mutation à l'illusion de perfection. J'affite des oiseaux. Le matin des Parisiens. Cité unifiée de Nilopa. Les barreaux scellés dans la paroi donnaient sur un panneau métallique circulaire que Ganesh, arc-bouté sur ses jambes, parvint à soulever et à faire basculer. Il découvrit au-dessus de sa tête un ciel gris et bas, et devant lui, un paysage vallonné bien différent de la bordure. Les frondaisons ocres frissonnaient sous les rafales d'un vent chargé de pluie. « Bouge-toi, merde !» Le puits de sortie du labyrinthe mesurait plus de 100 mètres, et Ava s'était plainte durant toute la montée de ses douleurs aux genoux et à l'épaule. Ils avaient d'abord couru en suivant le plan affiché dans l'esprit de Ganesh, tentant de prendre de vitesse la propagation du gaz mortel. L'activité de la biopuce s'était interrompue quelques mètres avant qu'il n'arrive sous le puits vertical pourvu de barreaux métalliques. Il n'avait pas ressenti ni nausée, ni contraction, ni aucun autre effet lié au sarin. Ganesh s'extirpa de l'orifice, puis aida Ava à se hisser à la surface. Elle épousseta et défroissa sa robe, remonta ses bas, remit un peu d'ordre dans sa chevelure avant de dégager ses talons enfoncés dans la terre humide. « Où on est ?» Ganesh observa de nouveau les environs. « Dans le pays hors-site, à mon avis. » Une émotion indéfinissable l'étreignit lorsqu'il prononça ces mots. C'était la première fois qu'il se retrouvait hors de la cité, et il en éprouvait un vertige, teinté d'inquiétude. « Comment on fait pour retourner à Paris ?» Il jeta un regard désolé à son équipière. « Aucune idée. Il faudrait que ma biopuce capte un satellite relié aux matrices de la cité, à moins qu'on demande gentiment aux habitants du coin. À ton avis, on a parcouru combien de kilomètres dans les souterrains ?» Pratiquement 10 en suivant le plan de la matrice. Ce qui signifie que, comme on était déjà tout près de l'extérieur de la bordure avant de se mettre à cavaler, on est à 12 km des premières barrières filtrantes. Puisqu'on est sorti à l'est de Nilopa, il n'y a qu'à suivre la direction de l'ouest, du soleil couchant. Tu vois le soleil, toi ? Il pointa l'index sur la partie la plus lumineuse des nuages. Ils se mirent en chemin, en s'efforçant de choisir les passages praticables. Une averse rageuse et froide les contraignit à s'abriter sous la frondaison épaisse d'un chêne aux branches torturées et aux feuilles rousses. Ava remonta le col de sa veste. Ah, « Tu parles d'une virée !» soupira-t-elle. « Avec toi, au moins, je peux dire que je vois du pays. Fallait pas me choisir comme maître de stage. On m'a pas vraiment laissé le choix. De toute façon, les autres me faisaient pas envie. » Ils gardèrent un temps de silence, évitant les gouttes qui tombaient de la ramure. Ava alluma une cigarette et recracha une longue guirlande de fumée. « Je pense que tout ça est lié, » reprit Ganesh. « Tu peux être plus clair ? Les types en armure qui ont attaqué les populations des souterrains et les ombres. Il ne s'agit pas de meurtres en série, mais d'une extermination calculée, ciblée, systématique. « Les ombres tuent par vagues, » objecta Ava. Les victimes se comptent en centaines, pas en millions. Un animal de grande taille traversa les buissons non loin d'eux. Ils n'entrevirent que son échine de couleur grise. J'ai l'impression que les vagues de meurtre des ombres ne sont que des prémices, des galops d'essais. D'ailleurs, le nombre des victimes va sans cesse croissant. Nous nous sommes plantés depuis le début. Tu veux dire qu'elles ont l'intention d'exterminer la population entière de la cité ? Ganesh acquiesça d'un mouvement de tête après quelques secondes d'hésitation. L'hypothèse lui paraissait à la fois logique et complètement farfelue. « Qui aurait intérêt à faire ça ?» reprit Ava. « Une autre cité ? C'est ça le « ailleurs sur le plan géographique » dont parlait Théo ?»« Une cité devenue folle, peut-être ? Ou encore une alliance, entre plusieurs cités ayant décidé d'éliminer les autres ?» Je crois malheureusement que nous n'aurons pas le temps de vérifier. Ava tremblait légèrement, et pas seulement de froid.
Si ton raisonnement est juste, tous ceux que je connais sont en danger, murmura-t-elle.
Tu connais beaucoup de monde ?
Mes parents, mon frère.
J'ai plus vraiment de contact avec eux, mais ils sont toujours là. Elle avait posé la main sur son cœur. Pas de petit ami ?
Ganesh attendit sa réponse avec une légère appréhension qu'il jugea stupide.
Le dernier m'a pas supporté longtemps. Faut croire que je suis pas du genre supportable. Il me reste deux ou trois copines, et encore, je les vois de moins en moins.
Tu étais vraiment faite pour la vie de fouine.
Ils attendirent la fin de l'averse pour repartir.
Les talons d'Ava ne cessaient de se planter dans la terre. Ganesh lui-même s'enfonçait par endroits dans la boue.
Une formation d'oiseaux en V fila sous les nuages en semant des cris rauques.
Chaque année, les matrices de la cité constataient une disparition d'une partie de la population. Un effacement inexplicable. Un escamotage semblable à un numéro de prestidigitation. J'ai eu moi-même accès, en tant qu'adjoint chargé du recensement, aux statistiques secrètes des matrices. Et ce phénomène m'a rapidement obsédé. Comment des gens pouvaient-ils passer entre les mailles d'un filet aussi serré, aussi sophistiqué que celui de Nilopa ? J'ai donc mené mon enquête et, de fil en aiguille, me suis retrouvé impliqué dans un réseau clandestin chargé d'évacuer les candidats à la libération. Non seulement je les ai pas dénoncés, comme m'aurait dû m'y inciter ma fonction, mais j'ai rapidement épousé leur cause. Il me semblait que j'allais enfin respirer de l'autre côté des filtres, qu'une fois débarrassé de ma biopuce, j'allais enfin me découvrir moi-même, savoir qui j'étais vraiment hors du contrôle permanent des matrices. On est venu me chercher un soir, et après m'avoir équipé d'un brouilleur, on m'a conduit par une succession de passages souterrains hors du périmètre protecteur de la cité. J'ai eu peur, je l'avoue, lorsqu'on m'a retiré ma biopuce. J'avais l'impression qu'on m'arrachait un organe vital. Puis, lorsque j'ai repris conscience, j'ai senti un grand vide en moi. Un silence presque effrayant, comme un espace vierge, vertigineux, où je pouvais désormais m'ébattre. Les autres m'ont dit qu'ils avaient ressenti le même effet après leur opération. Leurs murs et leurs plafonds s'étaient élargis. Ils étaient passés tout à coup d'une petite masure à une immense demeure. J'étais maintenant prêt à entamer la reconquête de moi-même. J'ai pensé quelques secondes à ma femme, à mon fils, aux autres membres de ma famille que j'avais laissés à Nilopa, ces êtres parfaits, reconstruits artificiels, que je n'avais jamais vraiment aimés. Peut-on éprouver de véritables sentiments lorsque l'esprit est contrôlé 24 heures sur 24 par une biopuce ? Je suis entré avec joie dans ma nouvelle vie. J'ai appris les gestes simples de la survie. Je suis tombé amoureux de Nathalie, une jolie clandestine. J'ai connu, je peux l'affirmer, le bonheur. C'était juste avant que les nuages obscurcissent notre ciel et que la foudre tombe sur nous, comme une punition divine.
Ganesh et Ava abordèrent les ruines d'une petite cité enfouie sous la végétation. Les branches avaient éventré les murs et les toits de certaines habitations. Ils reconnurent l'église à son clocher en partie effondré, un édifice de style roman, selon Ava, qui avouait une passion pour les constructions d'avant la Grande Guerre. Il n'y en a plus beaucoup à Paris, des vestiges de Notre-Dame, quelques immeubles haussmanniens, deux ou trois bicoques anciennes. Leur intrusion provoqua les grognements et la fuite bruyante de gros animaux aux poils noirs. Ava s'arrêta pour contempler l'église. Ganesh marcha encore sur une trentaine de mètres avant de se rendre compte qu'elle ne le suivait plus. Il se retourna, repéra des silhouettes autour d'elle, rebroussa aussitôt chemin, la main glissée dans sa poche et posée sur la crosse de son taz. Contrairement aux animaux, la dizaine d'hommes de tous âges qui étaient sortis des ruines environnantes ne s'éloignèrent pas lorsqu'il s'approcha d'eux. Leur apparence physique le surprit. Il s'était attendu à rencontrer des créatures difformes, monstrueuses, et il faisait face à des êtres ordinaires, semblables jusque dans leur tenue aux citadins de Nilopa.
Même s'il ne portait pas d'armes et ne semblait pas animé d'intentions agressives, il garda l'index replié sur la détente du Taz. Il rejoignit Ava sans qu'il ne s'interpose.
« On a de la visite !» murmura-t-elle.
Elle aussi gardait la main posée sur son arme sous ses vêtements. Leur vis-à-vis se tenait à quelques mètres d'eux sans bouger, se contentant de les fixer d'un air plutôt bienveillant.
« Qui êtes-vous ? » demanda Ganesh. Comme aucun d'eux ne répondait, il pensa d'abord qu'il n'avait pas compris.
Il s'apprêtait à répéter sa question quand l'un d'eux s'avança de deux pas. Paraissant plus âgé que les autres en dépit d'une peau parfaitement lisse et d'une chevelure noire parsemée de fils argentés, il portait l'un de ces costumes gris unis que Ganesh avait déjà vu dans la cité.
« D'anciens citadins, » déclara l'homme.
« Des clandestins. Nous sommes volontairement sortis du périmètre de la cité. » Il se pencha et souleva une mèche de sa chevelure pour dévoiler une courte cicatrice en haut de sa tempe.
« Nous avons retiré nos biopuces, » reprit-il,
« tranché le lien qui nous rivait aux matrices. »«
L'opération est dangereuse, » objecta Ganesh. « On peut en mourir. »
« Comme vous pouvez le constater, nous n'en sommes pas morts. »«
Et vous, que faites-vous hors de la cité ?»
Ganesh hésita quelques instants, puis, après avoir croisé le regard anxieux d'Ava, décida d'opter pour la franchise.
« Nous menons une enquête sur une série de meurtres commis dans Nilopa. »
L'homme hocha la tête d'un air entendu.
« Les ombres, vous en avez entendu parler ?
Même si nous ne sommes plus connectés aux matrices, donc plus concernés, nous sommes au courant de ce qui se passe dans la cité.
Vous êtes fouineur ? »
Ganesh ne répondit pas.
« Comment votre enquête vous a-t-elle conduit ici ? » insista l'homme.
Des éléments nous amènent à penser que les ombres proviennent du pays hors-site, d'une autre cité peut-être, et que les vagues de crimes sont des galops d'essai pour l'extermination totale de la population de Nilopa.
Que comptez-vous faire ?
Retourner dans la cité et prévenir les autorités ?
L'homme réfléchit quelques instants, la tête légèrement penchée sur le côté.
Il serait dangereux pour nous de vous laisser repartir.
Il n'avait pas eu besoin de hausser le ton pour donner à sa voix une intonation menaçante.
Notre organisation est encore trop fragile pour résister à une intervention militaire de Nilopa.
Le bras d'Ava vint se glisser contre celui de Ganesh, qui fixa tour à tour les visages des transfuges de la cité. Il y lut de la détermination et une certaine assurance. Ils étaient probablement équipés d'armes pour l'instant indécelables, où des tireurs embusqués aux fenêtres des maisons proches tenaient les deux intrus dans leur ligne de mire.
Les vagues de meurtres finiront par vous toucher comme elles ont touché les populations qui vivent dans les souterrains, affirma Ganesh.
Les règlements de compte entre cités ne nous concernent plus, je vous l'ai déjà dit. Nous n'appartenons plus à leur monde. Pour elles, nous n'avons plus d'existence.
Il nous faut savoir qui sont les ombres et quel est leur but. Nous avons besoin les uns des autres.
Vous nous demandez à nous, les transfuges, d'aider la cité à régler ses problèmes ?
Le problème de Nilopa risque de devenir rapidement le vôtre. Des armées suréquipées se promènent dans les alentours et se livrent à des massacres systématiques. Elles ont probablement un lien avec les ombres.
L'interlocuteur de Ganesh consulta ses compagnons du regard. Le fouineur vit que ses arguments commençaient à porter.
Un bruissement attira son attention. Une nuée d'oiseaux s'envolait du toit éventré d'une maison, envahie par la végétation. Les ruines lui semblèrent soudain abriter un danger.
« Comment pourrions-nous avoir confiance en vous ? Vous êtes un fouineur, un chien de garde de la cité.
Vous n'avez pas vraiment le choix. »
Ganesh désigna les alentours d'un geste du bras.
« Je suppose que vous avez disposé des tireurs dans les environs et qu'il vous suffit d'un geste pour que nous soyons neutralisés. Mais Ava et moi sommes désormais les seuls capables de remonter la piste des ombres et donc de pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Encore une fois, notre intérêt est de nous entraider. »
Il entrevit un mouvement scintillant entre les frondaisons, comme un œil réfléchissant un éclat de soleil.
Demande d'autorisation de passer en mode direct contrôle. Demande d'autorisation de passer en MDC.
Ganesh mit 2 secondes pour se rendre compte que sa biopuce s'était réactivée.
Pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Demande d'autorisation de passage en MDC.
Il hésita encore quelques instants.
Ava le fixait d'un air intrigué.
Autorisation accordée.
Il prit son équipière par le bras, la plaqua contre lui, effectua un saut de côté une fraction de seconde avant que ne retentisse la première déflagration. Une gerbe de terre et de pierre pulvérisée leur cingla le visage.
Des détonations éclatèrent en rafales, tombant des hauteurs, décimant les transfuges.
Ganesh aperçut alors l'escadron de drones qui se déployait en silence au-dessus de l'ancienne ville en ruine.
Le fracas des bombes supplanta bientôt les staccato des mitrailleuses et des fusils automatiques des tireurs embusqués.
Bombe perforatrice à uranium enrichi.
Salaud !
Vitupéra l'interlocuteur de Ganesh.
C'est toi qui les as !
Frappé à la tête, il s'effondra sur un tas de pierres recouvertes de ronces.
Des silhouettes paniquées surgirent des ruines bombardées et se dispersèrent dans les allées conquises par la végétation.
Quelques drones se déroutèrent et fauchèrent les fuyards avec une précision implacable.
« Putain de merde, Ganesh, c'est quoi ce bordel ?»
glapit Ava.
La fumée enflait autour d'eux, acre, irrespirable, répandant une odeur de poudre et de minéral fondu.
Maintenant Ava contre lui, Ganesh se dirigea vers une allée perpendiculaire en partie occultée par des branches rampantes. Il se déplaçait sans prendre d'initiative, il n'avait pas besoin de courir.
La biopuce semblait choisir le chemin entre les explosions, comme si elle devinait l'endroit précis où allait atterrir chaque bombe.
Ils avancèrent entre les déflagrations, les bouffées de chaleur, les pluies de terre pulvérisées, enjambant des corps, contournant les éboulis.
« Tu sais où tu vas ?»
cria Ava. Affolée par le fracas et la chaleur intense des explosions, elle le suivait sans résister, comme une automate. Ils s'engagèrent dans l'allée perpendiculaire. Un drone s'engouffra à leur poursuite sous les frondaisons.
Quand l'ennemi est trop fort pour toi, tu as le choix de disparaître ou de devenir plus fort que lui.
Proverbe du noyau.
Pays hors site.
On dirait que cette cité a été frappée par la maladie du sommeil,
marmonna Kolb.
Une maladie qui s'appelle la mort, fit Delune.
Et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a causé.
Ils marchaient dans des rues jonchées de corps. L'alignement parfait et l'élégance des constructions frappaient Naya. Rien à voir avec l'entassement chaotique du noyau et des autres agglomérations hors site qu'ils avaient traversées. Ici, tout respirait l'ordre et l'harmonie. Les arbres bordant les places et les avenues arboraient des feuilles aux couleurs inhabituelles, qui contrastaient avec la blancheur immaculée des façades et le gris anthracite des dalles. La mort elle-même semblait avoir moissonné avec délicatesse et discrétion.
Des engins roulants s'étaient immobilisés au milieu des rues. Leurs passagers n'avaient pas eu le temps de sortir. Certains corps vomis par leurs portes entrouvertes gisaient sur les marchepieds.
« Ça ne peut pas être un virus, en tout cas, » reprit Delune.
« Même foudroyant, aucun virus n'est capable de frapper à une telle vitesse. »«
Alors quoi ?» demanda Naya. Elle n'avait pas remisé son pistolet dans sa poche,
le pointant sur le petit engin en forme de disque qui était revenu les survoler à plusieurs reprises.
« Ça peut pas être un gaz non plus, » répondit Delune. « Un gaz n'est efficace qu'en milieu clos. »«
Gaz ou pas, moi je dis qu'il faut pas rester dans le coin. » grommela Kolb. « Ça sent la diablerie. Les heures te disent rien, Yosp ?»
Le petit homme, terrorisé depuis qu'ils étaient entrés dans la cité, secoua la tête d'un air désolé. Des nuées de corbeaux se rassemblaient en poussant des croassements sinistres. Ils grimpèrent un escalier jusqu'au rempart et longèrent le chemin de ronde d'où ils apercevaient au loin le serpent gris du fleuve.
« J'ai faim !»
bêla Yosp au bout d'un moment.
« Je vois pas où on pourrait piéger du gibier dans le coin, »
maugréa Kolb.
« On devrait trouver de la nourriture là-dedans. »
Delune désignait les habitations proches.
« T'es fou !» protesta le trappeur. « Ça revient à se jeter la tête la première dans la nasse !»«
Ils ne sont pas morts chez eux. Encore une fois, si la force dont parle Yosp avait pu nous tuer, elle l'aurait déjà fait. »
Ils dévalèrent un deuxième escalier et s'introduisirent dans l'un des immeubles à la porte restée grande ouverte. De même, ils ne rencontrèrent aucune difficulté à pénétrer dans un appartement du rez-de-chaussée.
« Les systèmes de sécurité sont déconnectés, »
affirma Kolb en examinant l'un des écrans insérés dans le chambranle.
« Comment tu sais ça ?» demanda Naya.
« J'en ai déjà vu dans certaines agglomérations hors-site.
Des trucs avec des caméras et des écrans qui identifient les visiteurs.
Et encore quelques gars qui savent les faire fonctionner. Cela, en tout cas, semble hors d'usage. Sinon, ils nous auraient sûrement pas laissé entrer. »
Le cadavre d'un homme nu gisait dans un couloir, recroquevillé sur le carrelage. L'eau chaude, qui continuait de couler d'une pomme de douche, indiquait qu'il avait été surpris par la force meurtrière au moment où il s'apprêtait à se laver. La ventilation continuait d'aspirer la vapeur dans un grésillement étouffé. Ils se rendirent dans la cuisine, où ils découvrirent dans un frigo éteint des fruits, des légumes, du fromage, des yaourts et des morceaux de viande qui commençaient à décongeler. Delune tourna les boutons des plaques de cuisson, mais aucune d'elles ne s'alluma.
« Il n'y a plus d'électricité !» grogna Kolb. « On peut juste récupérer la viande congelée et la faire griller sur un feu de bois. »
« L'eau qui coule de la douche est chaude pourtant !» objecta Naya.
« Elle doit venir d'un ballon ou d'une réserve. Il faut le temps de se vider. »
« Ça prouve encore que l'attaque a eu lieu il y a peu de temps !» intervint Delune. « On pourrait en profiter pour se laver !» Kolb jugea l'idée stupide. Yosp n'y accorda aucun intérêt. Mais Naya ne se fit pas prier pour se rendre dans la salle de bain, se dévêtir et se glisser sous le jet encore chaud de la douche. Delune la rejoignit quelques instants plus tard pendant que Kolb, bougon, grignotait un morceau de pain et que Yosp somnolait sur un canapé.
« Les heures ! Elles me parlent !» cria soudain Yosp. « Les hommes méchants qui n'ont pas d'odeur, ils viennent ici pour nous tuer !»«
Tu parles des cavaliers ?» demanda Naya.
« Les cavaliers, oui. Les heures me disent, ils seront bientôt là. »
« Ils nous ont repérés. » Delune se releva et rajusta ses vêtements. Il s'était endormi dans la chaleur de Naya sur le lit de la grande chambre. Sans doute grâce à l'engin volant.
« Je l'avais bien dit qu'il fallait pas rester dans le coin, » gronda Kolb.
Il s'était couché dans la deuxième chambre, la plus petite, et venait tout juste de se réveiller.
« Ils arrivent d'où, Yosp ?» demanda Delune.
Le petit homme tendit le bras dans une direction.
« Ils sont deux. Ils n'ont pas d'odeur. Ils viennent pour nous tuer !»
Ils entassèrent les fruits, ceux que Yosp n'avait pas encore dévorés, et les morceaux de viande dans un sac à dos, puis sortirent de l'immeuble et filèrent dans la direction opposée à celle indiquée par Yosp. Ils furent bientôt en vue d'une porte du rempart.
« Bordel !» rugit Kolb. « On dirait qu'elle se referme !»
Les lourds vantaux métalliques avaient en effet commencé à coulisser.
« On fonce !» cria Delune. « On a encore le temps de passer !»
Naya jeta un coup d'œil derrière elle. Le petit appareil volant flottait quelques mètres au-dessus d'eux. Elle crut également entrevoir des mouvements entre les façades des immeubles proches.
« Naya, vite !»
Elle prit le temps de tirer son pistolet avant d'accélérer l'allure et de rattraper les autres.
« On n'y arrivera pas !»
grogna Kolb. Ils coururent vers la porte. La vingtaine de mètres qui les séparaient de l'ouverture parurent interminables à Naya. Elle eut l'impression que sa foulée se rétrécissait, que ses poumons et sa gorge s'enflammaient, que les vantaux allaient se refermer sur eux comme les mâchoires d'un animal géant. Yosp, à qui la peur donnait des ailes, fut le premier à franchir le passage. Delune s'y engouffra à son tour et se retourna aussitôt pour voir où en était Naya. Elle parvint à se glisser dans l'interstice de plus en plus étroit. Kolb également. Même si les vantaux, se refermant dans un tintement prolongé, happèrent un pan de sa veste de peau et le maintinrent plaqué contre la surface métallique. Le trappeur eut beau tirer sur son vêtement comme un damné, il ne parvint pas à se dégager.
« T'as pas d'autre choix que de l'abandonner !»
murmura Naya entre deux expirations sifflantes. Kolb se démena comme un animal furieux. Sa veste se déchira de haut en bas. Il réussit enfin à se dégager de l'étau et rejoignit les autres en grommelant. Il ne lui restait plus qu'une manche et un pan couvrant le côté droit de son torse massif. Ils traversèrent un premier terrain hérissé de rochers et d'arbustes. Leur passage effraya les corbeaux affairés à picorer les cadavres éparpillés entre les reliefs.
« On marche vers le sud, en tout cas !»
fit le trappeur en désignant le soleil. Delune s'assura d'un coup d'œil que la porte ne se rouvrait pas. Ils se lancèrent dans une longue descente. Le paysage se transforma peu à peu. Au bout de plusieurs kilomètres, ils atteignirent les rives de Rhône et longèrent le fleuve jusqu'à ce que Yosp réclame de nouveau à manger.
« Il a pas tort,
lança Kolb. Les autres ne nous suivent pas, on est près de l'eau et on a besoin de force.
Delune acquiesça. Le trappeur se débarrassa des vestiges de sa veste. Torse nu, il rassembla aussitôt un cercle de pierres et y entassa des branches mortes. En s'apercevant qu'il avait laissé son embraseur dans la poche de sa veste restée coincée entre les vantaux de la porte de la cité, il pesta et recourut à la bonne vieille technique du frottement entre deux morceaux de bois pour allumer le feu. Puis, enfila les morceaux de viande partiellement décongelés sur des pieux qu'il suspendit au-dessus des braises. Ils mangèrent, sans cesser de surveiller les environs. Personne ne se manifesta, ni sur le fleuve, ni sur les rives, ni sur les pentes des collines voisines.
Ces types, ils n'ont pas été tués par les cavaliers de l'Apocalypse, marmonna Kolb. Et pourtant, tout semble lié.
Ça revient à dire que la force qui a tué les citadins contrôle aussi les cavaliers, confirma Delune. Pourquoi cette force s'en prend-elle aux populations des cités? Demanda Naya. Pourquoi s'en prend-elle aux hors-sites? Delune mâcha pensivement un morceau de viande. Elle semble décidée à exterminer l'ensemble des populations humaines.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Murmura Kolb, les yeux agrandis par la frayeur.
Qu'elle est pas humaine?
Delune haussa les épaules. J'en sais rien. Les exemples sont nombreux dans l'histoire, d'humains qui ont tenté de supprimer d'autres groupes d'humains. On appelait ça des génocides.
Vrai que les cavaliers ont l'air d'humains.
Kolb avait tenté de se rassurer en prononçant ces mots. Naya se souvint du cavalier qu'elle avait croisé dans le noyau en flammes, de ses yeux entièrement blancs et froids, comme la mort, de sa voix, de ses mots, de ses doigts refermés comme des pinces autour de son cou.
Tu diras aux autres que nous allons revenir, et vous exterminer jusqu'au dernier. Votre temps s'achève. Dis-leur de se préparer.
Les balles n'avaient eu aucun impact sur lui. Elle se rappela son désarroi, son sentiment d'impuissance. « Je suis pas si sûr que toi, » dit-elle. « J'en ai vu un de près et il n'avait pas grand-chose d'humain. » Une moue sceptique déforma les lèvres de Kolb.
« Pourquoi il t'a pas tué alors ?»«
J'ai cru comprendre qu'il m'épargnait parce qu'il était à court de munitions. Et aussi pour que j'aille dire aux autres qu'ils étaient nos ultimes adversaires et qu'ils nous tueraient jusqu'au dernier. »«
Quel intérêt ?»«
Laisser des témoins pour semer la terreur dans le cœur des gens, » intervint Delune. « Un principe également utilisé par les clans du noyau. »
« Je répète, quel intérêt de tuer tout le monde ?» insista Kolb. « Quel intérêt d'habiter un monde où il n'y a plus personne ? Qui serait assez fou pour vouloir un truc pareil ?»«
Une autre forme d'intelligence, peut-être ?» Delune s'essuya les lèvres d'un revers de main. « Une nouvelle forme de vie qui tente de supplanter l'ancienne ?»«
Elle viendrait d'où, cette nouvelle forme de vie ?»
Le trappeur pointa le doigt vers le ciel.
« De là-haut ?» J'ai entendu dire qu'il y avait sûrement d'autres habitants dans l'espace.
Si cette forme de vie a une autre logique que nous, on aura du mal à la comprendre en tout cas. Le cavalier m'a dit avant de partir que nous avions fait de ce monde un champ de ruines, que notre temps s'achevait, précisa Naya.
Ouais, c'est plutôt eux qui sont en train de transformer cette terre en champ de ruines,
grogna Kolb. Alors que le soleil rougissant plongeait derrière les crêtes des collines, ils repartirent et décidèrent de bivouaquer à la nuit tombée sur une éminence rocheuse qui surplombait le fleuve. Les hommes étaient probablement les moins bien lotis pour s'imposer sur leur monde. Et, pourtant, ils sont devenus l'espèce dominante grâce à leur ingéniosité, leur organisation et leur incroyable instinct de survie. Alors, pour qu'un jour une autre espèce les éradique de la surface de la Terre, il faudrait qu'elle soit même pourvue d'une férocité, d'une conviction ou d'une puissance à toute épreuve. Les êtres humains trouveront encore des ressources pour créer des poches de résistance, perpétuer leur espèce. Chaque fois qu'un fou sanguinaire ou un gouvernement scélérat a tenté d'exterminer un peuple entier, il n'y est jamais parvenu, quelle que soit la puissance de son armée, quels que soient les moyens mis en œuvre. La Grande Guerre elle-même, avec ses milliards de morts, ses destructions massives, ses pollutions ravageuses, n'a pas abouti à l'extinction du genre humain. Les uns se sont réfugiés dans les cités fortifiées, les autres se sont débrouillés pour survivre en milieu hostile.
La première fois qu'on m'a parlé de cette mystérieuse force décidée à exterminer les hommes, j'ai rigolé. Avant de pénétrer par hasard dans une cité ouverte et de découvrir des milliers de cadavres dans les rues.
Y a personne, on dirait.
Les radeaux Bartlow s'arrimaient les uns aux autres pour former une gigantesque passerelle à l'intérieur d'une crique, craquaient sous l'effet d'une légère houle. Naya ne vit aucun mouvement sur les embarcations, ni sur la rive du fleuve. De l'une, Kolb, Yosp et elle se tenaient en haut d'un surplomb rocheux. Ils avaient marché une grande partie de la journée en suivant le cours sinueux du fleuve. Puis, alors qu'ils s'installaient pour préparer le repas du soir, Yosp avait repéré la flottille Bartlow en contrebas.
« Pourquoi ils auraient abandonné leur radeau ?» chuchota Kolb. « Le fleuve me paraît toujours praticable. »«
Peut-être parce qu'ils ont commencé leur métamorphose, » avança Naya.
« Dans ce cas, faudrait mieux pas rester dans le coin. »«
Les heures me disent !» intervint Yosp. « Les corps des hommes sans poils, ils sont jetés dans un grand trou !»«
Une fosse ?» releva de l'une. « Ça s'est passé il y a combien de temps ?»
Je sais pas. Les heures me disent pas.
Ils descendirent sur la rive du fleuve et explorèrent la chaîne des radeaux. Naya se tenait prête à faire feu au moindre mouvement. Un silence funèbre recouvrait les lieux, troublé de loin en loin par les croissements des corbeaux. Ils récupérèrent, dans les embarcations vides, des arcs, des flèches et des carquois abandonnés. Puis longèrent le Rhône sur plusieurs centaines de mètres. Et découvrir la fosse dont avait parlé Yosp. Des centaines de corps ensanglantés s'y enchevêtraient. Hommes, femmes, enfants, tous dépourvus de systèmes pileux. On les avait sans doute fusillés au bord de l'excavation naturelle dans laquelle on les avait poussés, les laissant pourrir au soleil. À l'odeur et à l'état des cadavres, Delune estima que le massacre avait eu lieu 2 ou 3 jours plus tôt. Le spectacle lui donna envie de pleurer. Même s'ils souffraient de la maladie de la métamorphose, les Bartlow étaient des frères en humanité, et il avait l'impression que chaque balle qui les avait frappés déchiquetait également son âme.
« Bordel, ça s'arrêtera donc jamais !» murmura Kolb.
« Si on veut avoir une petite chance que ça s'arrête, il faut absolument qu'on sache qui fait ça et pourquoi !» répondit Delune.
4 pouilleux avec un flingue rouillé et 2 pauvres flèches sont pas de taille à affronter ces machines à tuer, » rétorqua le trappeur. « Et puis, c'est grand le pays hors site. Comment savoir d'où ils viennent ?»«
Il doit y avoir un moyen, » affirma Delune. « Ils ont forcément un poste de commandement, un endroit où sont centralisés les ordres et les mouvements. » Kolb se détourna pour cracher. Puis il se redressa et écarta les bras.
« Par où on commence les recherches ?»
demanda-t-il d'un ton rogue. Delune rechigna à reconnaître qu'il n'en avait pas la moindre idée. Jamais il ne s'était senti à ce point inutile. Il enveloppa Naya d'un regard à la fois tendre et désespéré. Puis il contempla les corps sans vie des Bartlow. « On n'a pas d'autre choix pour l'instant que de continuer vers le sud. »